오늘 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 11 à 17. Lisons tout drôle. Or, il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Nain. Ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Il y avait avec elle une foule considérable de la ville. Le Seigneur la vit, eut compassion d'elle et lui dit, « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu et disaient, « Un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Cette parole se répandit à son sujet dans la Judée tout entière et dans tous les environs. Prions pour pouvoir écouter la parole de vie. Prions pour pouvoir comprendre l'Évangile qui ne contient aucun désespoir. Prions et prions aussi pour l'évêque. Dieu le Père, nous voulons écouter ta parole éternelle. Influence ton serviteur pour qu'il puisse prêcher seulement ta volonté et seulement ce qui vient de toi, et qu'il puisse supporter cette parole. Que tous les saints qui vont recevoir ta parole puissent être dans tes mains, et que nous puissions être unis lorsque nous écoutons ta parole, et que nous puissions aisément supporter ta parole. Que tous ceux qui participent à ce culte, qui écoutent ta parole, soient tous avec toi. Je prie au nom de Jésus. L'évangile dans lequel le désespoir n'existe pas, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu demeure à jamais la source de la bénédiction. Il distribue son bonheur à tous ceux qui sont en lui. S'il envoya son Fils dans le monde, ce fut afin que le monde obtint le bonheur dans son Fils. Le monde, néanmoins ombragé par le malheur, est toujours auprès du désespoir et du découragement. Et les hommes sont dans l'épuisement. Jésus-Christ, par pitié envers le monde, veut le corriger et y planter le bonheur de Dieu. Le Seigneur qui avait rencontré la veuve de Nain sur le chemin du désespoir est le Seigneur de nous tous. Le Seigneur qui est avec nous par le Saint-Esprit, non seulement nous sauve de tout malheur sur cette terre, mais aussi souhaite nous rendre heureux dans son royaume éternel. Le désespoir n'existe pas dans l'Évangile. Rappelons-nous que l'Évangile qui arrête le désespoir est activé par notre conduite. Pour surmonter le désespoir et le découragement, repentons-nous, corrigeons l'âme ainsi que nos cœurs et notre conduite. Rappelons-nous que le bonheur de Dieu est le droit dont doit jouir celui qui le prêche. L'Évangile est la puissance du Dieu de miséricorde qui arrête tout désespoir et découragement. Après avoir été évangélisé, nous devenons membres de l'Église de Jésus-Christ. Et ensuite, il peut y avoir toutes sortes d'hommes. Dans toutes les églises, il y a ces deux groupes d'hommes. Le premier groupe, c'est le groupe de ceux qui croient que le chemin de la foi est le chemin de la vie éternelle. Donc, pour pouvoir mener cette vie sainte, ils se dédient entièrement à Dieu. C'est ça le premier groupe. Et le second groupe d'hommes, c'est quoi? C'est dans ce groupe, il y a ceux qui sont un peu différents de ceux qui composaient le premier groupe. Ces gens-là pensent qu'ils veulent entrer dans le royaume de Dieu, mais ils ne veulent pas investir beaucoup pour mener la vie de la foi. Ils se contentent d'entrer dans le royaume des cieux. Comme s'ils contractent une assurance, ils mènent la vie de la foi uniquement pour entrer dans le royaume des cieux. Lorsque nous avons été évangélisés dans le passé, et nous avons entendu dire que nos péchés de nos âmes, les péchés de nos âmes pourraient être effacés. C'est pourquoi nous sommes entrés dans l'Église et nous avons pu faire une expérience spirituelle étonnante. Alors nous avons reçu le pardon des péchés et alors nous avons été vraiment émus par cela. Et à ce moment-là, nous avons connu un changement considérable. C'est parce que nos péchés ont été effacés. Mais après quoi, qu'est-ce que s'est passé? En fait, on n'a pas progressé et on s'est arrêté à cela. Si on fait une expérience spirituelle, on peut prendre une détermination étonnante. Cela nous conduit à un changement de notre vie quotidienne. Ensuite, on commence à nous préparer pour entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est tout à fait normal. Mais le moment où nous avons été émus, peut être oublié. On peut ne pas progresser, même après ce moment-là. On s'arrête à cela, on s'en contente. Donc, le progrès de la foi varie selon les hommes. C'est pourquoi il y a plusieurs sortes de chrétiens à l'Église. Nous sommes tous sur le toit de l'Église, sur le même toit de l'Église, mais il y a certains qui sont exemplaires, mais il y a d'autres chrétiens qui sont inférieurs à la moyenne. Alors, voilà, il y a donc beaucoup de sortes de chrétiens dans le christianisme. Comment nous devons donc percevoir cette situation? Est-ce qu'on doit accepter cette situation sans aucun souci? Mes bien-aimés, alors, à vrai dire, il faut que nous obtenions la note de plus de 90% à 90 sur 100. C'est ce qui est souhaitable. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas mener une vie qui est tout à fait dédiée à notre Dieu? C'est parce qu'il y a un désespoir dans le monde. Parce qu'on est en fait dévasté par la souffrance qui vient de ce monde. Si nous devons vivre dans ce monde, et il y a beaucoup de choses qui nous désespèrent, il y a beaucoup d'événements qui nous désespèrent. Et partout, il y a des choses qui nous désespèrent, qui nous rendent malheureux. Nous vivons dans l'environnement dominé par ce qui est matériel. Dans cet environnement, nous pouvons être facilement blessés. Le corps de l'homme peut être cassé, blessé facilement, et notre cœur aussi peut être facilement blessé et cassé. Et à cause de la souffrance qui vient de ce monde, nous sommes déjà fatigués, épuisés, et nous avons peur d'éventuelles souffrances qui peuvent venir. Dans ce contexte, on a du mal à mener bien la vie de la foi. On se dit, si vous voulez venir, si vous voulez me donner quelque chose, vous pouvez me la donner. C'est ce qu'on dit à l'Église. Mais tu ne peux pas être intervenu, dérangé par l'Église. C'est ce qu'on se dit. La culture de ce monde ne nous permet pas de mener la vie de la foi correctement. Le monde se matérialise de jour en jour et ce qui compte aujourd'hui, c'est l'argent et l'apparence. Et par contre, on néglige l'importance de ce qui est invisible. Donc, ce qui est invisible n'a aucune valeur ces jours-ci. Donc, ce genre de culture, ce genre d'environnance constitue un obstacle à notre vie de la foi. Ce n'est pas nous seulement qui expérimentons cela. Et les chrétiens des autres pays souffrent également de ce genre de problème. Par exemple, en Afrique, dans un certain nombre de pays africains, la situation politique n'est pas stable. Ils souffrent de l'imperfection de l'ordre public. Alors, ils sont sous la violence et ils sont dans la pauvreté. Pour eux, ils n'ont pas de marge pour pouvoir penser suffisamment à la question de la foi. C'est parce que leur environnement les circonstances qui les entourent sont très difficiles pour la pauvreté, la violence, la maladie, etc. Donc, si nous sommes confrontés à ce genre de malheur, nous pouvons être blessés. Et cette blessure ne peut pas être réglée facilement. Alors, nous pouvons donc affronter des problèmes de la foi lorsque nous sommes dérangés par les circonstances difficiles. Voilà, nous sommes confrontés donc à de divers problèmes et nous avons donc redouté par ce genre de choses. Et alors, nous souffrons donc de difficultés potentielles. Donc, puisqu'il n'y a pas, même s'il n'y a pas d'évidence directe, de preuve directe, nous pouvons donc souffrir. De problèmes qui peuvent surgir. Il n'y a peu qui sont mentalement corrects à 100% aujourd'hui. C'est pourquoi lorsqu'on évangélise, on doit y réfléchir. On ne connaît pas très bien les gens, la nature des gens, leur situation, leurs blessures, leur désespoir, leur fatigue. lorsqu'on s'adresse à eux pour les évangéliser, et comment on doit réagir, en fait, pour les évangéliser. On doit parler seulement de l'évangile, on doit parler seulement du pardon des péchés. Le monde est difficile, hein? Donc est-ce qu'on doit leur dire qu'il faut patienter, supporter la douleur qui vient de ce monde, parce que dans le royaume, seulement dans le royaume des cieux, il y a le bonheur. C'est ce qu'on doit dire à eux pour éviter tout simplement de parler de des difficultés réelles de ce monde. Ça, c'est pas correct non plus. Nous, les saints, nous souffrons beaucoup de problèmes de ce monde. C'est pas quelque chose de facile. Nous sommes aussi fragiles et faibles. Même parmi les chrétiens, nous pouvons souffrir de chocs mentaux. C'est pourquoi nous pouvons nous défendre de manière précoce pour ne pas plus souffrir. Même si un prédicateur peut parler d'un avenir sûr et d'un espoir à venir, si on est dans une difficulté extrême, on ne peut pas l'écouter parce qu'on n'a pas de marge pour l'écouter. En fait, Dieu nous donne un espoir et Dieu nous confie des choses à faire. Mais si on est trop malheureux, on ne peut pas écouter la parole de Dieu. On ne peut pas écouter ce que demande notre Dieu parce qu'on n'a pas de force pour l'écouter. C'est ça le problème. Mais bien-aimés, l'Église Sonnac, doit ne pas être découragé alors si on est trop découragé on peut être redouté par toutes choses si le désespoir vient on doit le vaincre à l'Église Sonnac. Il faut que toutes sortes de semences de désespoir disparaissent. C'est ce qu'on doit viser. Il faut que l'Église Sonnac soit remplie d'espoir céleste. Et il faut que tous les membres de l'Église accomplissent les missions confiées par notre Seigneur Jésus pour jouir du bonheur de Dieu. En fait, je voudrais vous parler d'une histoire d'une veuve de Naïn. Naïn est un château qui se situait près de Jérusalem. Il y a eu une veuve qui a perdu son mari. Elle avait un seul fils, mais elle a perdu ce fils aussi. Donc, elle connaissait en fait le plus grand malheur parce qu'elle a perdu son mari et son fils unique. Lorsqu'elle avait perdu son mari, donc lorsqu'elle avait été blessée par la mort de son mari, elle était vraiment malheureuse. Mais en plus, elle a perdu son fils unique, c'est pourquoi personne ne pouvait s'occuper d'elle. Cette veuve n'était pas une vieillarde. Lorsque Jésus a appelé son fils mort, il a appelé un jeune homme. Donc on peut imaginer que son fils était âgé d'environ de 17 ans ou bien de 20 ans. Et la veuve était âgée de 40 ans, pardon, ou 37 ans, quelque chose comme ça. Dans le passé, la situation était totalement différente de celle d'aujourd'hui. À l'époque, c'était la famille qui comptait le plus. Et la situation financière du passé n'était pas facile, n'était pas aisée. Alors là, et alors la situation de la veuve était désespérante. Elle n'avait rien à espérer parce qu'elle a perdu son fils et son mari. Parce qu'à l'époque, le rôle de la famille était beaucoup plus important que celui de la famille d'aujourd'hui. La joie qu'elle a eue était son fils, mais son fils était mort. Donc, sa situation était totalement désespérante. Donc, la vie de cette veuve n'avait aucun sens. Mais, et alors, lorsqu'elle a rencontré Jésus, ce dernier a mis sa main sur le cercueil de son fils mort et il a arrêté. Il avait pitié de la veuve. Il lui a dit, ne pleure pas. Il s'est approché d'elle et il a touché le cercueil. Alors ceux qui le portaient se sont arrêtés et Jésus a dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. À ce moment-là, le mort s'est assis et s'est mis à parler. Alors Jésus l'a rendu à sa mère. Alors les gens ont été saisis de crainte et ils ont glorifié Dieu. C'est ce qui s'est passé dans le texte qu'on a lu. Si Jésus n'était pas là, la veuve n'aurait pas pu éviter le plus grand malheur possible. Alors la joie qu'elle a eue, c'était son fils. Mais il devait le laisser partir. Mais elle a rencontré Jésus, c'est pourquoi elle a pu retrouver sa joie, qui était son fils. Elle était très étonnée, hein? Mais elle a pu retrouver sa joie, mes bien-aimés. Jésus est venu pour nous aider. Jésus a pitié de nous. Notre Seigneur connaît bien nos faiblesses. Il connaît bien nos points faibles. Lorsque Jésus a vu la veuve, il a eu pitié d'elle et lui a dit, ne pleure pas. Il faut que nous donc comprenions le cœur de Jésus-Christ qui a pitié de nous. Il connaît parfaitement nos faiblesses. Il faut que nous comprenions donc sa miséricorde envers les hommes. Il est venu dans le monde pour régler le problème du péché et alors il a fait de nous ces hommes et les enfants de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est en train de préparer nos demeures dans le royaume des cieux. Nous restons encore dans le monde, mais nous allons entrer dans le royaume des cieux selon sa promesse. Et alors, il ne veut pas que nous soyons découragés hein, avant d'entrer dans le royaume des cieux. Il faut que notre espérance céleste soit bien maintenue. Lorsqu'il y a un grand tumulte, un grand typhon vient, et il ne faut pas qu'on se soumette à notre destin malheureux. Et Jésus veut arrêter et apaiser, nous apaiser. Donc, Jésus ne veut pas que quand malheur survienne dans notre vie. Jésus veut mettre fin à nos difficultés. C'est son ordre. Nous avons reçu son ordre, nous avons reçu sa bénédiction. C'est-à-dire que nous avons reçu sa parole. Lorsqu'il y a de grandes vagues, lorsqu'il y a de grandes pluies, Dieu nous donne sa parole. Jésus nous donne sa parole qui les arrête définitivement. Donc nous devons vivre par sa parole. Nous devons nous tenir sur sa parole fermement. Cette parole-là est la vie pour nous. L'évangile des Seigneurs fait disparaître le désespoir. Il le sauve et il va nous faire monter dans le royaume des cieux pour nous faire vivre éternellement. Voilà l'évangile. Voilà le sens de l'évangile de Seigneur Jésus. Nous avons été rencontrés par beaucoup de difficultés. C'est pourquoi nous sommes découragés, n'est-ce pas? Mais il y a un dicton qui dit « Si on avait été très étonné par quelque chose, on est facilement étonné par même par une petite chose. » Et si on a été découragé par le passé, est-ce qu'on est vraiment intimidé par d'éventuels malheurs? Mais bien-aimés, sortons de ce découragement et il faut que nous soyons capables d'arrêter toutes sortes de malheurs, de faire disparaître toutes sortes de malheurs. Et il faut qu'on s'y habitue. Et il ne faut pas que nous soyons soutenus par la force du bonheur de Dieu. Ce que nous devons retenir ici, qu'est-ce que c'est? Et si je parle de la force du bonheur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de psychologique. Je ne parle pas de quelque chose de psychologique. Si c'est psychologique, on doit corriger nos pensées, on doit corriger nos pensées pour pouvoir cacher. Et éviter un peu le malheur qui survient. Mais moi, je parle d'une réelle intervention de notre Dieu le Père. Notre Dieu est le Créateur. C'est lui qui arrête, fait disparaître toutes sortes de malheurs qui nous oppriment. Donc, il faut que nous soyons sous sa protection. Il ne s'agit pas d'une simple consolation mentale. Il veut nous aider réellement par sa force. C'est une force du Créateur. Donc, il faut que nous expérimentions ce genre de signes. Alors, notre environnement doit favoriser cela. Pour cela, il faut faire un effort pour que Dieu puisse agir plus facilement et plus efficacement. Pour cela, il faut qu'on améliore notre situation pour favoriser l'action de notre Seigneur Jésus. Pour cela, il faut avoir une attitude bienveillante envers les autres. Il faut nous aimer les uns les autres. Il faut faire en sorte que nos blessures soient efficacement guéries. C'est ce que attend le Seigneur Jésus de nous.
사람들아, 저들이 말하는 것은 듣는데 그걸 덜어주려고 손 하나 까딱도 하지 않는다.
Seigneur, notre Seigneur Jésus, qui était de, sur cette terre, il a critiqué l'attitude des Juifs. Parce que eux, en fait, ils, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3, il est dit, notre Seigneur, notre Dieu est le Dieu de la consolation qui nous sauve de toutes sortes de tribulations. Et alors, il le console ainsi. Alors, par cette consolation, nous pouvons aussi consoler les autres. C'est ça l'action de notre Dieu. Pour cela, le Christ a souffert avant nous, à la souffrance qu'il a connue, nous console, nous guérit, nous sauve de toutes sortes de malheurs. Donc, et c'est pourquoi nous pouvons être en paix. Heureux. La Bible dit, réjouissez-vous, soyez en paix, et que le Dieu de l'amour et de la paix vous soit avec vous tous. Mes bien-aimés, nous devons donc faire un effort pour bénéficier de l'aide de Dieu et nous pouvons guérir ceux qui sont blessés. En même temps, nous devons être capables d'obtenir l'aide de Dieu qui nous sauve du désespoir. Par le passé, nous avons été désespérés par beaucoup de malheurs. Alors, nous avons été intimidés donc par d'éventuels malheurs, mais il faut qu'on sorte de cette mentalité parce qu'il y a la promesse de Seigneur Jésus qui nous sauve. Jésus nous a dit, et vous allez me revoir, à ce moment-là, vous serez réjouis, personne ne pourra ôter de vous cette joie-là, et vous pouvez demander tout ce que vous voudrez en mon nom, et vous serez donc remplis de ma joie. Voilà, c'est ça la parole de Jésus-Christ. Il faut qu'on soit ainsi dominé par cette parole-là, et il ne faut pas avoir peur d'éventuelles difficultés. Jésus nous a dit, mes bien-aimés, vous serez prospères en toutes choses, parce que vos âmes prospèrent. Voilà, il faut que nous soyons ainsi remplis d'espoir céleste et on doit donc se dédier à Dieu. C'est ça notre attitude qu'on doit adopter. Pour cela, il faut qu'on soit dominé par la parole de Jésus. On a eu beaucoup de souffrances dans le passé, mais on ne peut rien faire pour le passé. Désormais, on doit faire l'expérience de notre Seigneur Jésus pour être rempli d'espoir céleste. Et pour être, et voilà, donc il faut que l'Église, toute Église, soit remplie d'espoir céleste. Donc, corrigeons notre attitude. Dans le passé, nous avons été, nous avions une attitude de défaite. On était égoïste et on voulait que les autres échouent et que nous réussissions seuls. Hein? Voilà, c'était une attitude arrogante. Et voilà, nous avons été ainsi détruits et blessés. Et si on adopte une telle attitude, et on pense à tort qu'on est fort, mais c'était une attitude de défaite. Il faut que nous soyons tous prêts à faire l'expérience signe de la part de Dieu. Il faut faire en sorte que Dieu puisse nous aider. Pour cela, il faut que notre foi progresse. Donc, il faut avoir des habitudes correctes qui nous permettent d'expérimenter le Seigneur Jésus. Parce que Jésus veut se montrer dans notre vie. Jésus veut vous montrer ses signes à nous. Donc, dites Amen si vous êtes d'accord avec la parole de Dieu. En résumé, vous pouvez aussi faire un résumé, hein, mais je voudrais donc vous aider un peu. Voyons une image. L'Église qui vint le désespoir par l'évangile de Jésus. Numéro 1, si je dis le numéro, vous lisez. La venue du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, et être toujours conscient de la présence du Saint-Esprit et respecter le Saint-Esprit et le craindre. Dieu demeure en nous par le Saint-Esprit. Dieu est présent en nous. Donc, il ne faut pas l'oublier. Même à tout instant, il faut que nous soyons bien conscients de Jésus qui nous regarde, de sa présence en nous, parce qu'il regarde notre cœur. Il est ainsi avec nous et il veut agir en nous, il veut déployer ses forces. Donc, il ne faut pas oublier. Donc. Et il veut, il ne faut pas mépriser donc notre Dieu. Il faut le respecter. Il faut respecter donc le Saint-Esprit, hein. Il faut le craindre. Deuxièmement, il faut qu'on soit toujours conscient de son aide et il faut donc le remercier pour cette aide-là et il faut en témoigner. Il nous aide, même en temps ordinaire. Mais parfois, on est aidé à notre insu. Donc, il faut qu'on soit bien conscient de son aide. Ce n'est pas par hasard qu'il nous a aidés. Il nous a aidés. Il faut qu'on ait donc une inspiration qui nous permet de sentir son aide. Et il faut qu'on soit bien reconnaissant pour cette aide-là et il faut en témoigner. Il faut le faire. Sinon, Dieu ne peut pas nous aider de nouveau et on ne peut pas espérer son aide. C'est parce que notre foi ne peut pas supporter son aide. Troisièmement, il faut faire l'expérience de ces signes souvent. Il faut que notre vie soit accompagnée de signes de Jésus. C'est ça la vie des chrétiens. Il faut faire l'expérience de ces signes de manière répétée. Et quatrièmement, il faut aider les autres et il faut consoler ceux qui sont blessés. Il faut encourager les autres sans cesse. Il faut aider, s'entraider, parce que nous devons être toujours ensemble, donc il faut essayer de consoler les autres, de les comprendre, pour les guérir de leurs maladies mentales. Et il est important, la prière du pasteur est très importante. C'est parce que, en fait, les pasteurs imposent leurs mains sur la tête des saints pour que d'éventuels malheurs ne s'infiltrent pas dans leur vie. Donc, c'est la prière du pasteur est très importante. Et lorsque je vous bénis à la fin du culte, ce n'est pas quelque chose de banal, hein? C'est quelque chose de spécial. Lorsque je lève mes mains, mes bras, et pour vous bénir, et moi, je sens une grande grandeur de l'autorité que j'ai. Je ne peux pas expliquer cela de manière parfaite. Lorsque je vous bénis ainsi, je ressens une grande responsabilité, un grand amour envers vous. Cette prière est vraiment importante. Moi, je suis tout simplement un serviteur du Seigneur Jésus, mais lorsque je vous bénis, je me sens vraiment responsable de vous. Et parce qu'il ne faut pas que vous souffrirez d'un grand malheur. Donc, je prie pour que vous puissiez éviter la survenue d'éventuels malheurs. Et la parole que je vous prêche doit vous donner la vie pour que vous puissiez ne pas souffrir d'éventuelles difficultés, d'éventuels malheurs. Et je vous bénis ainsi pour que Dieu vous protège. C'est pas la peine d'être découragé par le passé. Et il faut qu'on se batte toujours pour pouvoir sortir vainqueur. Et il faut faire en sorte aussi que Dieu puisse se battre pour nous. Pour cela, il faut l'accueillir, il faut le craindre, il faut le respecter. L'évangile, il ne faut pas se contenter d'écouter l'évangile, mais il faut le gagner. Pour cela, il faut que nous nous battions avec notre Seigneur Jésus. Seigneur Jésus est notre bouclier et nous sommes des soldats qui portent ce bouclier. Nous, nous devons aller au champ de guerre pour pouvoir activer l'aide du Seigneur Jésus. Alors, il faut alors servir l'Église de notre cœur, de notre force. Et il faut nous battre de toute notre force avec notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas la peine d'être découragé, désespéré, parce qu'il n'y a pas désespoir dans la foi. Dieu veut déployer toutes ses forces pour nous. Il veut nous distribuer son bonheur, donc il faut que nous répondions positivement à l'action de Dieu. Il faut accueillir notre Dieu et il faut le craindre, l'aimer, le respecter. Dites amen si vous avez décidé de le faire. Si vous retournez à la maison, il ne faut pas que vous soyez un peu dispersé mentalement. Il faut que vous soyez toujours sous l'influence du Seigneur Jésus. Et il faut que vous deveniez des évangélistes qui agissent avec le Seigneur Jésus. Ceux qui n'ont pas le sang de Jésus sont remplis de péchés. N'est-ce pas? Donc, il faut les sauver et parce qu'ils sont déjà détruits, il faut les sauver, il faut les aider. Hein? Prenons une décision de le faire. Soyons heureux avec le bonheur de Dieu. Soyons protégés par notre Seigneur Jésus. Levez-vous, prions. Nous avons l'Évangile qui ne contient aucun espoir. Nous avons donc la voix du Seigneur Jésus. Il faut que nous nous battions de notre force pour vaincre le désespoir. Le Seigneur Jésus va se battre à notre faveur. Il aura pitié de nous pour nous faire prospérer. Donc, servons notre Seigneur Jésus et alors faisons en sorte que Dieu puisse travailler en notre faveur. Il doit travailler pour nous. Alors là, soyons donc prêts à obtenir son aide. Prions.